L'aime. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion, en direct à midi et rediffusée à 18h. Et nous revoici pour la troisième fois sur les plages vivantes, du nom de ce programme de sciences participatives qu'on a déjà exploré deux fois sous l'angle ethnologique et sociologique, sous l'angle artistique et culturel. Nous voici cette fois avec une biologiste de la station marine de Concarneau, Pauline Poisson, qui coordonne le programme de sciences participatives mis en place dans le cadre de l'opération Plage Vivante. C'est une opération qui est portée par le Muséum National d'Histoire Naturelle. Puisque Pauline est biologiste, c'est bien de cela qu'il s'agit aujourd'hui, de biologie et d'écologie. Et puisque le programme Plage Vivante s'intéresse au départ à la laisse de mer, on va commencer par ça. Bonjour Pauline.
Bonjour.
Qu'appelle-t-on donc la laisse de mer? Qu'y a-t-il dedans?
Alors la laisse de mer, comme son nom l'indique, en fait, c'est ce qui va être laissé par la mer. Et donc, ça va être l'ensemble des débris à la fois naturels et liés aux activités humaines qui vont se déposer sur le haut des plages au gré des vents, des courants et des marées. Alors dans cette laisse de mer, on va retrouver différentes catégories de débris. Donc à la fois des débris d'origine végétale, donc composés par exemple d'algues ou de plantes marines ou encore de plantes terrestres, donc comme le bois flotté qu'on peut retrouver dans cette laisse de mer. Et il y a également des débris d'origine animale, donc sous différentes formes aussi. Donc ça peut être des cadavres d'animaux qui s'échouent, mais aussi des pontes de différents mollusques ou poissons. Donc voilà. Et bien sûr, mêlé à cette laisse de mer, aujourd'hui, on retrouve aussi beaucoup de déchets liés aux activités humaines qui viennent soit de la terre, soit des activités en mer. Et donc voilà, qui impacte aussi le fonctionnement naturel de cette laisse de mer.
Il y a beaucoup de petits éléments de filets, notamment de filets de pêche.
Exactement, oui, les bouts de ramandage effectivement sont présents, mais pas uniquement. On retrouve aussi sur certaines plages beaucoup de vers. Et ça dépend un petit peu des plages, si c'est une plage urbanisée ou une plage naturelle. Effectivement, on ne peut pas retrouver la même composition de déchets et ni la même quantité d'ailleurs.
Oui, c'est ça qui est intéressant. La laisse de mer, est-ce que déjà ça existe partout sur toutes les mers du globe?
Alors globalement, oui.
Ah oui, même en Méditerranée où il n'y a pas de marée?
Alors voilà, par contre les laisses de mer sont différentes en fonction de nos littoraux. Donc c'est vrai que si on prend l'exemple de la Bretagne où les algues sont très présentes, on a effectivement des laisses de mer qui sont bien représentées sur les plages. C'est vrai qu'en Méditerranée, on va retrouver plutôt des débris de plantes marines comme la Posidonie.
C'est pas une algue, c'est ça la Posidonie?
Voilà, c'est ouais. Une plante à fleurs qui pousse sous l'eau. Et donc chez nous, alors en Atlantique, on a l'équivalent qui s'appelle l'azostère. Et donc il y a différentes espèces aussi. Mais voilà, ce sont des plantes avec des racines, des feuilles et qui font des graines et qui vont se développer sous l'eau. Donc voilà, en fonction d'où on se trouve sur le littoral, on a effectivement différents types de laisses de mer. Voilà.
Et est-ce que, comment dire, la laisse de mer, comment dire, que vous allez étudier, vous, dans le programme de sciences participatives, ça sera celle de la Bretagne ou celle de quel endroit, en fait?
Alors, du coup, l'Observatoire participatif Plage Vivante s'intéresse à l'ensemble du littoral métropolitain. On a développé, en fait, un premier volet d'études sur la composition en algues des laisses de mer. Et donc, sur ce volet-là, on va s'intéresser principalement aux laisses de mer du littoral atlantique, de la Manche et de la mer du Nord. C'est vrai que, du coup, la Méditerranée a ses spécificités et a finalement très peu d'algues dans ces laisses de mer. Donc, c'était un endroit où, pour l'instant, en tout cas, on ne propose pas de suivi particulier, mais peut-être sur le plus long terme, pourquoi pas. Et en fait, donc cette laisse de mer, on l'étudie donc via cet angle-là. Mais on aimerait bien aussi développer en fait d'autres suivis sur cette laisse de mer, enfin du moins qui sont en lien avec cette laisse de mer. Mais peut-être j'y reviendrai un petit peu plus
bien
tard.
Bien sûr. Ouais. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'étudier la laisse de mer déjà?
La laisse de mer, finalement, tout le monde voit un petit peu ce que c'est, tout le monde se balade sur les plages, mais finalement, son fonctionnement n'est pas très bien connu. Et donc, il y avait des questions qui se posaient, notamment d'où viennent ces algues, pourquoi elles sont différentes en fonction de l'endroit où on se trouve sur le littoral. Et surtout, est-ce que du fait du réchauffement climatique notamment, est-ce que ces compositions en algues, elles vont être amenées à changer ? Parce qu'effectivement, on a des algues qui ont plutôt une affinité pour les eaux chaudes, qu'on va retrouver majoritairement dans le sud de la France. Et peut-être qu'au fil des années, avec l'augmentation de la température de l'eau, ces algues vont être amenées à migrer un petit peu plus, ou à être du moins plus présentes dans les parties au nord de la France.
Donc l'intérêt, c'est que ce sont des indicateurs, c'est ça ? Enfin, surtout. Mais est-ce qu'elles ont d'autres intérêts, et lesquels ? Enfin, notamment des intérêts écologiques
Oui, alors lorsqu'on parle de la laisse de mer, du coup, c'est vrai que ce qui la compose majoritairement, ça va être les algues qui s'échouent. Et donc, cette laisse de mer, elle va être en fait à la base de tout un écosystème. Et donc, premièrement, elles vont être en fait colonisées et décomposées par une faune spécialisée, donc à la fois des bactéries, mais aussi les petites puces de mer que tout le monde connaît.
Et il y en a d'autres, des sortes d'arthropodes, à part les puces de mer, qu'on voit vraiment à l'œil nu ?
Alors oui, il y a forcément toutes les larves d'insectes, de mouches par exemple, qu'on peut aussi observer. Il y a aussi des espèces un petit peu plus rares, là, qui sont beaucoup plus dures à observer. Par exemple, la grande lébrie des sables. En fait, ça ressemble un petit peu à un petit scarabée qui va manger en fait ces puces de mer. Pour le coup, c'est un prédateur d'autres invertébrés.
Donc, c'est plus gros qu'une puce de mer, alors ?
Alors voilà, c'est plus gros. Ça vit en lien avec la laisse de mer, vu que du coup, ça mange les invertébrés qui s'y trouvent. Mais c'est vraiment une espèce assez rare qu'on va retrouver majoritairement sur les îles bretonnes, au Glénan, à Groix, à Édic. Voilà.
Oui. Elle n'aime pas trop les continents, quoi, le continent.
En fait, elle vit majoritairement au niveau des galets. Et c'est vrai que quand les galets sont fréquemment retournés, du coup, ça ne devient pas un habitat favorable pour cette espèce-là. C'est vrai qu'elle préfère les zones où il n'y a pas trop de passage, on va dire.
C'est pour ça qu'il ne faut pas faire des cairns avec les galets en bord de mer.
C'est ça.
Les galets ne sont pas considérés comme des éléments de la laisse de mer. Enfin, tout ce qui est minéral, enfin, je veux dire des cailloux.
Non, effectivement, c'est vraiment tout ce qui est organique, donc végétal ou animal, qu'on va considérer de la laisse de mer.
Pour l'écosystème, en tout cas. Mais comme il y a aussi de l'artificiel, on l'a dit, oui, des éléments de déchets, comment ça peut interférer, ça ? Enfin, j'imagine pas en bien, mais bon.
Alors, oui, effectivement, ça peut. Si on a une laisse de mer qui se compose majoritairement de déchets, du coup, on perd un peu le fonctionnement. Du coup, c'est vrai que j'ai parlé des puces de mer qui s'en nourrissaient, mais il y a d'autres espèces qui vivent de cet écosystème, et notamment les oiseaux qui vont se nourrir des invertébrés présents dans cette laisse de mer, et qui peuvent, du coup, ça peut vraiment constituer une ressource alimentaire importante en période de migration pour ces oiseaux. Et en fait, cette laisse de mer, lorsqu'elle se dégrade, elle va en fait constituer une sorte d'engrais naturel qui va être assimilé par le sable et permettre à des plantes en haute plage, donc des plantes terrestres, de se développer et de développer des racines assez profondes et étendues qui vont permettre de fixer le sable et d'ensuite, lorsque c'est possible et qu'il y a de la place en haute plage, de former une dune qui va ensuite protéger aussi un petit peu le rivage de la mer.
On peut en citer deux, trois, peut-être des plantes les plus connues
Oui, alors une des espèces les plus connues, ça va être le chou marin, puisque c'est une espèce qui est protégée à l'échelle nationale. Et on connaît aussi souvent la roquette de mer, donc le caquilé maritime. Et puis, et qu'est-ce qu'on peut citer d'autre La renouée maritime aussi, qui est un petit peu plus rare, mais qu'on retrouve sur nos littoraux.
Mais vous parliez d'engrais. Est-ce qu'on doit comprendre que c'était utilisé notamment par les humains aussi comme engrais après la laisse de mer
Oui, alors je ne suis pas une spécialiste de la question, mais effectivement, les algues ont été utilisées à la fois pour l'agriculture. Donc c'est toujours dans certaines parties du littoral utilisé dans ce cadre-là. Mais il y a eu aussi d'autres utilisations, notamment dans la fabrication de la soude avec les fours à Guémont. Et je pense que j'en oublie, mais voilà.
Et cette laisse de mer, alors est-ce qu'on a quand même si on est en cours d'étude, est-ce qu'on a quand même une idée aussi des paramètres qui façonnent, vous parliez donc de la marée évidemment, le vent, enfin il y a d'autres, qu'est-ce qui fabrique la laisse de mer ?
Ben, la laisse de mer, en majorité, ce sont des algues. Et du coup, les algues, finalement, elles se développent sous l'eau, sur des substrats rocheux. Donc, un des paramètres, ça va être le substrat environnant. Après, la question, c'est de savoir jusqu'où ces algues vont voyager. Alors, certaines ont des flotteurs, d'autres non. Du coup, c'est un paramètre à prendre en compte dans la laisse de mer. En fait, certaines algues vont voyager beaucoup plus que d'autres. Mais globalement, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a quand même un lien entre la laisse de mer qui se dépose sur une plage et la diversité des algues qui sont présentes juste à proximité sous l'eau. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on espère montrer très prochainement.
Et elle est toujours à peu près à la même hauteur par rapport à la marée, par exemple. Elle se place toujours à peu près au même endroit, cette laisse de mer.
Alors, on dit qu'elle est en haute plage, mais bien sûr, là, ça dépend de la configuration de la plage. Elle peut se déposer sur l'ensemble de la zone intertidale, donc la zone de balancement des marées. Et ça dépend bien sûr des coefficients de marée. Donc plus les coefficients seront forts, plus elles vont se déposer en haute plage et au fur et à mesure que les coefficients descendent, se déposer un petit peu plus bas sur la plage.
Ouais, donc elle n'est pas toujours au même endroit en fait, c'est ça ?
Non, c'est un habitat qui est très dynamique et on ne va pas avoir non plus la même composition d'algues sur l'ensemble de l'année. Puisque comme pour les plantes terrestres, donc certaines algues seront présentes par exemple uniquement au printemps, puisqu'elles profitent des périodes plus chaudes pour se développer, et voilà, elles ont un cycle de vie qui est annuel et qui se réduit sur certaines périodes de l'année.
Et même quand la plage n'est pas de sable, mais plutôt de petits cailloux, comme sur la grade de Brest, peut y avoir de la laisse de mer ?
Oui, tout à fait. Oui. Même sur des plages de galets, c'est possible aussi d'avoir de la laisse de mer. C'est vrai qu'on... Alors ça dépend. Des fois, ça peut aussi former des gros volumes de laisse de mer et des fois, juste un petit filet. Ça dépend, mais c'est possible en tout cas.
Elle est accessible à des animaux un petit peu plus gros. Enfin, on pense à des crabes ou des animaux qui se déplacent.
Alors oui, peut-être, mais c'est vrai que les crabes, par exemple, ils ont plutôt tendance à être sous l'eau. Là, comme ça,
c'est un peu trop loin, quoi, en fait.
Ouais.
Elle n'est pas forcément accessible aux animaux les plus aquatiques.
Mais c'est vrai que, par contre, quand la laisse de mer est de nouveau dans l'eau, tous les petits invertébrés dont on a parlé précédemment, ça vont pouvoir servir de nourriture à d'autres animaux et notamment certains poissons. Qui vont pouvoir profiter de cette ressource alimentaire pour se nourrir.
Donc, ressource alimentaire, un engrais. Elle joue peut-être aussi un rôle quand elle est très importante. Je ne sais pas comment pour réguler l'érosion. Enfin, je ne sais pas comment dire ça.
Oui, voilà. Alors, je comprends.
Du Merci. Coup,
un rôle qu'on peut citer aussi, c'est une sorte de barrière du coup, à l'assaut des vagues. Donc, effectivement, c'est visible surtout quand la laisse de mer est... un volume assez conséquent, donc ça va freiner un petit peu les vagues. Bon, ça va pas les arrêter totalement. Hein. Et un rôle qu'elle a aussi, c'est que lorsque du coup elle est vraiment déposée sur la plage, le vent va transporter les grains de sable. Et le fait d'avoir ces entremêlés d'algues, les grains de sable vont être piégés. Et du coup, au fur et à mesure, en fait, la laisse de mer va être ensevelie avec ce sable.
Et ah oui, on a retrouvé des strates de laisse de mer enfouies.
Alors oui,
en fouillant.
Mais ça reste une fois de plus très, très dynamique. Donc s'il y a une marée avec des gros coefficients, ça peut de nouveau revenir en suspension. Enfin voilà, donc il y a plein de paramètres à prendre en compte. Mais c'est très dynamique.
Très bien. Et donc, il faut l'étudier. Alors, est-ce qu'elle a des... je suppose que oui, en fait, elle est menacée. Et quelles sont les menaces, surtout, qui pèsent sur la laisse de mer ?
Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est habitué aux belles plages de sable blanc, nettoyées mécaniquement. Et donc, ce n'est pas forcément l'idéal lorsqu'on veut préserver cette biodiversité des hautes plages. Donc, une des pressions, en tout cas, sur cet habitat-là, ça va être le ramassage mécanique qui n'est pas sélectif, en fait, dans ce qu'il va ramasser. Donc, il va ramasser donc, les algues, les déchets, forcément, liés aux activités humaines, mais aussi du sable. Ça va aussi parfois arracher donc, ces petites plantes qui sont à haute plage. Donc ça crée quand même un bouleversement dans la dynamique de cet écosystème. Et donc, ben voilà, les oiseaux ne pourront plus manger les invertébrés, etc. Donc ça, c'est une première pression. Et une autre pression, comme je l'ai déjà un petit peu expliqué, ben, ça va être en lien avec le réchauffement climatique, puisque ben, la composition en algues risque de changer. Et du coup, ça peut affecter le fonctionnement de l'écosystème. Voilà. Et c'est... Alors, on peut faire aussi un lien, alors je ne suis pas une spécialiste non plus, mais avec les algues vertes. Voilà. Il peut y avoir des pressions aussi liées aux engrais voilà, qui favorisent le développement de certaines algues.
Ouais, s'il y a trop d'algues vertes dans la laisse de mer, ça peut je sais pas, étouffer l'écosystème peut-être, non ?
Oui, voilà. Bon, dans les baies bretonnes, il y a parfois donc effectivement ces marées vertes qui vont asphyxier un petit peu tout ce qu'il y a en dessous. Donc c'est vrai que ça casse aussi la dynamique du fonctionnement de cet écosystème.
Donc le programme participatif de sciences participatives intitulé Plage vivante, en fait, c'était le point de départ, parce que nous, on a fait les choses un peu à l'envers sur Radio Évasion. On a commencé par parler de l'aspect ethnologique, sociologique, même artistique. Mais là, en fait, c'était ça. Hein, le départ, ça a commencé quand ? Enfin, comment est-ce que vous procédez pour cette observation ?
Alors, le programme a débuté en 2017-2018, donc avec la réflexion de comment monter ce projet, quel protocole proposer, pour quel type de public, quelles questions de recherche du coup développer aussi en lien plus avec la sociologie, l'anthropologie, comme on a pu voir dans les deux précédentes émissions, mais aussi en lien avec l'écologie et la conservation des espèces. Et donc, le premier protocole qu'on a développé se destine plutôt pour les scolaires. Et donc avec des outils qu'on a essayé d'adapter au mieux pour les enfants, avec notamment une clé d'identification des algues, on leur propose d'étudier à la fois le volume et la composition en algues de ces laisses de mer. Donc ce protocole, il s'appelle « À la mer ». Et on l'a proposé, on l'a d'abord testé en local en Bretagne parce que c'était un peu plus facile.
Ben oui, bien sûr.
Voilà. Et ensuite, on l'a proposé donc à plus large échelle, donc Manche, Mer du Nord et Atlantique, depuis mars 2019.
Donc des enfants de quel âge à peu près ?
Alors à partir du CM1, CM2, donc cycle 3. Alors, ce que je peux dire aussi, c'est qu'on ne l'a pas développé tout seul. Donc, il y a aussi beaucoup de structures qui nous ont accompagnés dans l'adaptation de ce protocole aux différents publics. Par exemple, l'association Planète Mer ou le programme des aires marines éducatives aussi qui ont été à l'origine de ce projet-là.
Bretagne vivante aussi, peut-être
ouais. Bretagne vivante aussi, exactement. Oui.
Des gens qui connaissent bien l'éducation, en fait, à la nature, hein, c'est ça ?
Voilà, à la nature, et puis au littoral, à la mer, parce que c'est assez spécifique aussi comme milieu. Et donc, peut-être un mot sur l'ouverture de ce projet. Là, on est en train de développer deux autres protocoles. Donc, un plutôt pour étudier la vie faune, donc les oiseaux qui vont trouver des ressources alimentaires dans cette laisse de mer. Et du coup, quelles espèces sont vraiment dépendantes de ce milieu-là, lesquelles ne le sont pas forcément. Est-ce qu'il y a des périodes de l'année où, effectivement, c'est des ressources qui sont vraiment essentielles pour ces espèces-là.
Donc là, tout le monde peut participer
Alors, le protocole est encore un petit peu en cours de construction. Donc, on vise surtout un public déjà un petit peu formé à l'ornithologie.
Donc, les bénévoles de Bretagne vivante,
par exemple,
de la LPO.
Alors, effectivement, et on est d'ailleurs accompagné sur la construction de ce protocole avec Bretagne vivante, justement. Et du coup, voilà, on invite les gens à tester ce protocole et nous faire de retour pour qu'on puisse l'améliorer. Voilà, dans cette idée de construire ensemble pour arriver à quelque chose qui satisfassent un petit peu tout le monde, à la fois les chercheurs pour répondre à leurs questions en écologie, mais à la fois les participants pour qu'ils y trouvent aussi du plaisir à participer et un intérêt.
Parce qu'il faut qu'il y ait une régularité quand même pour que ça fonctionne, pour que ça soit intéressant aussi à exploiter ces données.
Alors l'idée en fait c'est surtout d'avoir beaucoup de données. Et du coup, effectivement, ça peut être une régularité. Donc, certaines personnes peuvent participer plusieurs fois. Enfin, en tout cas, on les invite. Et si ça leur plaît, voilà, c'est quelque chose qui viendra naturellement. Mais ça peut être aussi une participation plus ponctuelle. Et une donnée viendra s'ajouter à toutes les autres collectées. Donc voilà, chaque participation a son intérêt.
Donc là, c'est les oiseaux. Et vous avez un troisième protocole encore ?
Voilà, donc là aussi en cours de construction, donc sur les plantes du haut de plage. Et du coup, essayer de comprendre un petit peu la dynamique de ces communautés sur l'ensemble du littoral. Voilà.
Et comment ça se passe ? Vous me parliez de kits, enfin je ne sais pas comment on dit, enfin, des outils pour l'observation. Enfin, par exemple, pour les écoles, est-ce qu'il faut que les classes aillent plusieurs fois au même endroit ? Enfin, comment elles font concrètement pour mener cette observation ?
Alors nous, ce qu'on conseille, avec des jeunes publics notamment, CM1, CM2, c'est vrai que c'est bien de faire une séance en amont, en classe, pour préparer à l'utilisation des outils. Parce que c'est vrai qu'on va utiliser des quadrats, des transects.
C'est quoi des quadrats ?
Voilà. Donc, c'est des surfaces d'étude, en fait, soit matérialisées par un carré, un quadrat, ou par une ligne, et donc un transect. Et en fait, c'est ce qui permet de standardiser les protocoles, donc c'est-à-dire qu'ils soient récoltés de la même façon par tout le monde. Donc on sait que dans toutes les surfaces d'étude seront d'un mètre carré pour le quadrat et de 25 mètres pour le transect.
Donc on pose par exemple son carré sur la laisse de mer et on regarde ce qu'il y a dans le carré.
C'est ça, on demande en fait aux participants dans ce mètre carré. Alors, on précise la laisse de mer fraîche, parce que c'est quand même plus facile à identifier.
Ouais, c'est ça.
De trier en fait, toutes les algues par forme et par couleur. Et ensuite, à l'aide d'un guide, d'une clé d'identification des algues, de se poser des questions. Est-ce que mon algue, elle est plutôt verte, plutôt rouge, plutôt brune ? Et en fonction des réponses, oui, non, on est redirigé en fait, vers un cheminement qui nous amène normalement au nom de l'algue ou du groupe d'algues. Parce que bien sûr, on travaille sur du coup de la laisse de mer, donc parfois on n'a que des morceaux d'algues. Et parfois, ces morceaux d'algues, ça peut être la majorité des algues du quadrat. Donc, c'est intéressant de pouvoir préciser qu'ils étaient là. Donc, par exemple, les laminaires, on n'a souvent que des morceaux de lanières, mais on sait que c'est une laminaire. Du coup, on a un groupe autre laminaire non déterminé, puisqu'on ne peut pas aller plus loin dans l'identification.
Donc, ils observent les algues, les enfants. Est-ce qu'on leur demande d'observer les animaux et puis même de recenser le type de déchets qu'ils observent ?
Alors, dans un souci de non-complexification du protocole, c'est vrai qu'on ne va pas demander aux enfants d'observer les déchets ou les autres animaux. Par contre, ce qu'on demande dans ce protocole-là, c'est les traces d'activité anthropique. Donc, est-ce qu'on a un accès à la cale, un accès par une cale aux engins mécaniques ? Et dans ce cas-là, ça suppose que peut-être il peut y avoir du ramassage mécanique en saison. Et on demande aussi si le jour de l'échantillonnage, il y a déjà des traces de passage d'engins mécaniques.
Voilà, ouais, des traces de roues de tracteur ou de choses comme ça. Quoi,
oui, voilà. Fait. Et du coup, l'absence d'algues aussi, associée à ces roues de tracteur, ça peut montrer qu'il y a eu un ramassage mécanique.
Et donc, pour une classe, une observation sur le terrain suffit ou est-ce qu'on les invite à revenir, je ne sais pas, 6 mois plus tard pour comparer, non ?
Alors, c'est vrai qu'on laisse libre les participants de choisir comment ils veulent s'impliquer. Donc, ça peut être effectivement une seule sortie ou alors ça peut être deux sorties. Et dans ce cas-là, ça peut être intéressant de comparer les résultats entre l'hiver et pourquoi pas le printemps, voir si on retrouve les mêmes espèces. Ou alors de comparer entre deux sites différents pour voir là aussi si on va retrouver les mêmes espèces. Et du coup, là aujourd'hui, on est en train de proposer, de développer une séquence pédagogique pour accompagner un petit peu plus aussi les classes dans ce protocole. Donc à la fois, dans l'émergence des questions scientifiques, voilà, pour essayer de faire comprendre aux enfants comment se passe le processus scientifique. Donc ensuite, dans l'utilisation des outils, la préparation du terrain. Ensuite, voilà, le relevé sur le terrain. Et ensuite, la saisie des données, mais aussi l'analyse et la visualisation de ces données-là.
Et quand vous aurez plus de résultats, parce qu'en fait, là, bon, évidemment, on en est presque au début du programme, c'est ça ? Enfin, oui. Il va durer combien de temps
Alors, il n'y a pas de date butoir. Voilà, donc on espère que ça va durer, puisque effectivement, comme la question de recherche principale autour de ce programme, en tout cas pour les questions en écologie, ça va être les effets des changements climatiques et anthropiques. Donc c'est quelque chose qu'on ne va pas mesurer sur une année, mais qui se mesure effectivement sur le long terme. Donc voilà, on espère vraiment pouvoir poursuivre le programme encore quelques années.
Donc vous pourrez faire des retours à vos observateurs, les enfants, puis les autres, les adultes, quand ils seront impliqués plus.
Oui, c'est ça. Et ce que je peux dire aussi, c'est que du coup, l'équipe scientifique fait aussi des relevés qui sont complémentaires à ceux effectués par le grand public et les scolaires. Pour plusieurs raisons, à la fois pour valider les protocoles. Est-ce que, par exemple, les 40 espèces qu'on a sélectionnées dans la clé d'identification vont pouvoir permettre de répondre aux questions qu'on se pose ?
Est-ce qu'il faut rajouter des espèces ou en enlever ?
Voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est vraiment complémentaire. Et du coup, on peut aussi faire des études plus focalisées pour essayer de voir le rôle d'indicateur éventuellement de ces algues, d'indicateur de l'état de santé des algues. Donc là aussi, il y aura des résultats scientifiques à ce niveau-là et qui sont un petit peu complémentaires aussi des relevés des participants.
Tout ça, ça sera peut-être le sujet de la prochaine journée d'études le 30 mars, c'est ça. Le programme Plage Vivante, ce sont des journées d'études également entre scientifiques.
Donc voilà, l'équipe du pôle humanité environnementale hein, qui ont déjà réalisé deux émissions ici, donc organise des journées d'études qui sont plus focalisées sur les relations entre les humains et les plages. Et donc le 30 mars, voilà, il y a deux tables rondes qui sont organisées autour de l'expérience des mondes des arts et des sciences et autour de la gestion des plages. Et le 18 mai, du coup, il y a une deuxième demi-journée. C'est celle-ci qui est plutôt dédiée à la gestion des plages. Voilà.
Bien, et ben on tiendra de toute façon nos auditrices et auditeurs au courant. Vous pouvez retrouver aussi la première journée d'études en visioconférence sur le site plage-vivante.fr et aussi nos précédentes émissions. Merci Pauline Poisson.
Merci à vous.